RCF.
Nous revoici pour une nouvelle saison de Vivre en couleur. Nous sommes désormais trois. Nous retrouvons le peintre, Béatrice Vial-Collet, avec qui nous nous sommes plongés la saison précédente dans l'origine et la symbolique des couleurs. Bonjour Béatrice.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Sylvaine Rer, qui anime les ateliers d'écriture à mots ouverts à Rochefort et à La Rochelle. Bonjour Sylvaine.
Bonjour à tous.
Et moi-même, Cathy Béchameil, la candide. Chez moi, on dit l'innocente, qui poserait les questions à la place de l'auditeur timide. Car cette année, nous tenterons d'aller plus loin et de voir comment vivre en couleur et créer dans tous les sens, c'est-à-dire dans la chanson, la littérature, la poésie, le théâtre et dans certains métiers. Toutes les expressions artistiques sont donc au rendez-vous. Alors, pour notre nouvelle série, commençons par le commencement. À l'origine se trouve la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu, dit la Genèse, sépara la lumière jour et les ténèbres nuit. Cette lumière nous a aussi donné les couleurs. Le ciel bleu, les prés verts, la terre rouge, le soleil jaune. Mais en fait, existe-t-il dans la nature des éléments vraiment multicolores ?
Oui. Ils existent même s'ils ne sont pas très très nombreux. C'est l'arc-en-ciel qui nous vient tout de suite à l'idée. Il est l'image poétique par excellence, c'est le voile flottant d'Iris. D'ailleurs, l'arc-en-ciel est, on l'a tous vérifié, l'une des premières images que dessine un enfant. Et nous, les grands, on continue de s'émerveiller devant ce mariage magique de la pluie et de la lumière.
Oui, Béatrice, vous parliez de l'écharpe d'Iris, la messagère des dieux. Pour les poètes grecs anciens, l'arc-en-ciel était plutôt la trace de son pied quand elle descendait à toute vitesse de l'Olympe vers la terre pour porter les messages de sa maîtresse Héra, particulièrement exigeante et autoritaire. Dans l'Iliade, Homère donne à Iris les épithètes aux ailes d'or, mais surtout aux pieds aériens.
Les pieds aériens,
même,
ça j'aimerais bien en
joli,
avoir.
C'est joli les pieds aériens. Et même, alors ma préférée, c'est aux pieds tourbillonnants. Iris a bien sûr donné le mot « irisé » en français.
Pour autant, je suppose que l'arc-en-ciel n'est pas toujours un symbole bénéfique, notamment quand on le représente sous forme d'un serpent géant qui relie les deux mondes. Pouvez-vous nous donner des exemples, Sylvaine ?
Oui, dans la mythologie inca, l'arc-en-ciel était un cruel serpent céleste que les hommes durent tuer car il se nourrissait de cœurs humains. Après s'être baigné dans son sang, les oiseaux prirent ses couleurs irisées. Chez certains peuples africains, l'arc-en-ciel est un python géant arc-bouté entre le ciel et la terre, sur lequel des esprits mauvais peuvent se glisser vers un village pour y amener le malheur.
L'ancêtre du toboggan, en quelque sorte.
Oui, c'est pas mal.
Oui, c'est ça, glissons, glissons. Donc on retrouve le mythe du serpent arc-en-ciel chez les aborigènes d'Australie, où il est au contraire bénéfique. Pour le nomade dans le bush, le serpent est un signe de la terre qui indique une source proche et l'arc-en-ciel est un signe du ciel qui montre où est tombée la pluie. La mythologie aborigène unit donc ces deux présages pour créer le grand serpent arc-en-ciel, Njamulji, habitant des puits et maître de l'eau, source de vie. Au temps du rêve, Njamulji se réveille en sursaut des profondeurs de la terre. Il casse la croûte terrestre et partout où il passe en ondulant, crée la vie à la surface. Les déserts sont les endroits où il n'est pas passé.
Très sympathique ce Njamulji. Mais là, Sylvaine, avec cette jolie légende, on est dans un monde poétique. Soyons réalistes, avant tout, l'arc-en-ciel est un phénomène physique. Rappelons comment il s'explique. Les gouttes de pluie agissent à la manière d'un prisme et provoquent la décomposition de la lumière en une infinité de couleurs. Ainsi est rendue visible une partie très infime des ondes électromagnétiques, celles qui nous arrivent sur la tête et celles qui nous entourent. La lumière donc se diffracte, c'est-à-dire les couleurs rayonnent, des ondes les plus courtes, c'est le violet, dans la longueur d'onde est 0,4 microns, c'est-à-dire un millième de millimètre. Puis elle passe par les bleus et les verts pour arriver aux ondes plus longues, les oranges et les rouges, 0,8 microns.
Vous nous ramenez à la physique, Béatrice. tellement physique, cet arc-en-ciel, qu'il peut être interprété comme un caprice de la nature. Nous allons vous lire à ce sujet une petite satire, écrite dans un de vos ateliers d'écriture, Sylvaine, par Jean-François Clerc.
L'arc-en-ciel est une erreur. Un oubli, il n'est pas de ce monde.
Ces couleurs vives, au milieu du ciel, ça jure. Ce jaune, ce bleu, ce rouge, sur un ciel uni, gris ou bleu, mais peu importe, uni, ça n'est pas à sa place. C'est le mauvais goût de la nature. Du reste, on ne le trouve que dans les illustrés ou sur les cartes postales.
L'arc-en-ciel est naïf. Et c'est justement parce qu'il est naïf qu'il croit qu'il existe. Et comme il croit qu'il existe, il fait encore quelques apparitions.
Bon, mais dans l'ensemble, l'arc-en-ciel est tellement loin, tellement intouchable qu'il n'existe plus. Éloignez-vous de quelqu'un et vous cessez d'exister pour lui, même si vous restez visible. La visibilité ne protège pas de l'inexistence. On peut être présent sans exister. Pour exister, il faut de la matière. Sinon, on reste une abstraction. Pour exister, il faut donner de la matière à penser.
Un seul point à mettre à son crédit, il ne se montre que derrière un voile de pluie. Le soleil, lui, fait preuve de moins de retenue.
Alors, l'arc-en-ciel prend aussi très souvent l'apparence d'un pont, voire d'un escalier.
Oui, d'ailleurs, au Japon, il est poétiquement appelé « pont flottant dans le ciel ».
De même, dans la Bible, il est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, et il annonce à Noé la fin du déluge. Et le plus souvent, l'arc-en-ciel est reçu comme un signe du ciel, comme nous le raconte cette légende amérindienne.
Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu'elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée. Elle se vantait à haute voix, chacune étant bien convaincue d'être la meilleure. Le bruit de leur querelle enfla et enfla de plus en plus.
Soudain, un éclair d'une lumière aveuglante apparut dans le ciel, accompagné de roulements de tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents, sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se rapprochèrent pour chercher un abri, les unes près des autres. La pluie prit la parole.
« Stupide créature qui vous battez, ne savez-vous pas que c'est le grand esprit qui vous a fait unique et différente, chacune dans un but particulier? Il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc pour vous montrer qu'il vous aime toutes et que vous pouvez vivre ensemble en paix. »
Ainsi, chaque fois que le grand esprit envoie une pluie pour laver le monde, il place l'arc dans son ciel, et quand nous l'apercevons, il faut nous rappeler que nous devons nous aussi nous apprécier les uns les autres et le louer de notre merveilleuse complémentarité.
On pourrait dire que ce conte est un bel hommage symbolique à Newton. Il le mérite puisqu'il aura fallu attendre 1665 pour apprendre, grâce à lui, que la lumière n'est pas vraiment blanche. Il nous démontre qu'en fait, elle contient toutes les couleurs. Alors, Béatrice Vialcollet, quelles sont les conséquences de ces découvertes dans la pratique?
Ah, elles sont fondamentales. C'est la découverte des couleurs primaires en 1807 par le physicien Thomas Young. On se rappelle que Newton, en trouvant les lumières colorées dans la lumière même, démontre que les couleurs ne sont pas une altération de la lumière. Elles lui sont en quelque sorte préexistantes. Young, à son tour, montre qu'il n'est pas du tout nécessaire de réutiliser tous les rayons du spectre pour reconstituer cette lumière. En fait, trois suffisent. Il découvre le système de couleurs primaires qu'on appelle RVB, rouge, vert, bleu. On parle ici, je vous le rappelle, de synthèse par addition des couleurs lumière. Ce sont celles qui nous viennent de la lumière, les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que ajoutées, elle nous donne la lumière blanche, le blanc. D'ailleurs, l'œil humain ne possède que trois capteurs. Un rouge, un bleu, un vert. Et c'est à partir de ces trois seuls capteurs que notre œil analyse les images et réalise la synthèse de toutes les couleurs.
Ah, c'est très étonnant. Et dans le domaine scientifique, Est-ce qu'on utilise ce système de synthèse rouge, vert, bleu ?
Oui, très souvent, ce sont les capteurs d'appareils photo numériques. Et puis, ce sont aussi les écrans LCD, cristaux liquides.
Et le jaune là-dedans ? Il existe bien un système RGB ?
Oui, oui, en effet, il s'agit du système de couleurs primaires, rouge, jaune et bleu, RGB. On le découvre plus tard et il s'agit cette fois alors de la synthèse par soustraction des couleurs matière. Ce sont les pigments, comme les ocres de la terre, c'est-à-dire les couleurs qui, ajoutées, donnent le noir. On le connaît bien, comme vous dites, Cathy, parce que c'est celui qui est utilisé par l'artiste, par le peintre, par l'imprimeur qui, lui, imprime en quadrichromie avec trois plaques de couleurs, rouge, jaune et bleu, et puis une quatrième pour les ombres, c'est-à-dire le noir.
Alors, pour continuer dans le domaine scientifique, Sylvaine, vous vouliez nous parler de synesthésie. Que cache ce mot impressionnant ?
Le mot synesthésie signifie en grec « perception simultanée ». Il s'agit d'une particularité neurologique qui, chez un individu, associe de manière involontaire, automatique et systématique des sensations en principe différenciées. Par exemple, le synesthète peut voir une couleur précise, toujours la même, quand il sent une odeur donnée, ou bien voir apparaître une forme quand il entend une note de musique particulière.
Alors, pour bien comprendre, auriez-vous une petite illustration, Sylvaine ?
Bien sûr, je pense tout de suite aux fameux voyelles d'Arthur Rimbaud.
A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle, je dirais quelques jours, vos naissances latentes.
A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre.
E. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle.
I. Pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes.
U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux.
Ô, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Oui, c'est un très beau poème, mais à vrai dire, cette perception simultanée nous semble à nous vraiment invraisemblable, alors que pour les synesthètes, cette association des sens est tout à fait ordinaire. Du reste, ils ne savent parfois même pas que leur synesthésie est inhabituelle, jusqu'à ce qu'ils réalisent que la plupart des gens n'expérimentent pas les mêmes sensations qu'eux. Et certains gardent même leur synesthésie secrète toute leur vie, les pauvres, de peur d'être incompris ou tournés en ridicule.
Quel dommage ! Alors précisons, dans ces phénomènes rares de synesthésie, y a-t-il des formes plus répandues ?
Oui, alors la plus répandue, c'est celle qui associe son et couleur, et aussi celle qui associe graphème, c'est-à-dire lettres et nombres et couleurs. On comprend que ces sensations simultanées donnent une perception tout à fait particulière du monde.
Et ce n'est sans doute pas par hasard si de nombreux artistes et créateurs sont synesthètes. Quelques exemples ?
Duke Ellington, timbre couleur. Pour la musique couleur, nous avons Hélène Grimaud, la pianiste, Franz Liszt, Michel Petrucciani. Olivier Messiaen, lui, c'est accord couleur.
Oui, il décrit ainsi l'un de ses mouvements. Bleu et mauve, doré et vert, et rouge-violet avec une tonalité gris-acier.
Nikolaï Rimsky-Korsakov, tonalité musicale couleur, et l'écrivain Vladimir Nabokov était synesthète graphème couleur.
Alors parlons aussi de Jacques Lucerand, qui est un écrivain qui par ailleurs était aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il disait en parlant de musique, « Je n'entendais plus les sons, je les voyais ». L'orchestre était comme un peintre, il me submergeait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
J'aimerais vous parler maintenant plus précisément d'un artiste un peu à part, puisqu'il collectionne plusieurs formes de synesthésie, il s'agit de Daniel Tammet. Il a sorti récemment « L'éternité dans une heure », une initiation à la poésie des nombres. En effet, pour lui, les chiffres sont dotés de formes et de couleurs, et même d'une personnalité propre. Il explique très bien dans son autobiographie « Je suis né un jour bleu » ce que ressentent les synesthètes. En voici quelques extraits.
« Je suis né le 31 janvier 1979, un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. Les mercredis sont toujours bleus, de même que le nombre 9 ou le bruit d'une dispute. J'aime la date de mon anniversaire parce que lorsque je visualise les nombres qui la composent, je vois leurs formes lisses et rondes, comme des galets sur une plage.
Les nombres sont mes amis, ils ne sont jamais loin de moi. Chacun est unique et possède une personnalité propre. Le nombre 11 est amical, 5 est bruyant, 4 est à la fois timide et calme. C'est mon nombre favori, sans doute parce qu'il me ressemble. Certains sont grands et gros, 23, 667, 1179. D'autres sont petits, 6, 13, 581. Certains sont beaux, comme 333. D'autres sont laids, comme 289. Pour moi, chaque nombre est particulier.
Ma synesthésie est d'un type inhabituel et complexe, car les nombres m'apparaissent comme autant de formes, de couleurs, de textures et de mouvements. 4 est un coup de tonnerre ou le son des vagues qui se brisent sur des rochers. 37 est grumeleux comme du porridge, alors que 89 me rappelle la neige qui tombe.
Alors effectivement, avec ce texte, on comprend mieux ce que vivent les synesthètes. Mais revenons maintenant à la lumière. On peut citer deux autres éléments multicolores de la nature qui découlent de sa diffraction, le diamant et les reflets sur l'eau.
Oui, parlons du reflet irisé. Il vient du mélange sphérique de l'eau et de la lumière. C'est justement ce jeu du soleil sur les gouttes d'eau que Sylvain Rer vous avait observé dans votre salle de bain et qui vous a inspiré un poème, si vous voulez bien nous le dire.
Ni jardin, ni vue sur mer, triste le printemps dans mon petit appartement. Mais soudain, dans la salle de bain, clin d'œil oblique, le soleil décoche ses ricochets. Miracle, sur le carreau blanc mouillé, mini arc-en-ciel privé. Chaque soir à présent, j'attends mon prodige éphémère. Chaque soir, le soleil fidèle incline pour moi son sourire irisé. Pour qui s'émerveille, la lumière, parfois, jaillit du reflet.
Faut s'en souvenir de ça.
C'est très beau. Et pour continuer dans l'irisation de l'eau, écoutons Giraud nous chanter Mama.
Mama sat down and spoke today. While there's life, there is hope, it's coming your way. Listen to me, oh, just hear the words I say. Mama tells me I'm like those fools, climbed up tight, holding back what they should say. Pressure building up, the storm is gonna break someday. Walk, walk toward the rainbow. Learn from all your trials on the way. Stormy weather never lasts. Oh, you see. Oh, you see. Mama tells me don't feel no shame. Fly too high and your wings get burnt away.
Mama tells me you shouldn't scorn yourself for the lovers that you mourn, that your fond scars, they're still a part of who you are. Walk, walk towards the rainbow, learn from all your trials on the way. Stormy weather never lasts, oh, you see, oh, you see. Stormy weather never lasts, oh, I see, oh, I see.
Bienvenue sur RCF pour Vivre en couleur. Nous venons d'entendre Géraud chanter Mama, la leçon de vie de sa maman, marche droit vers l'arc-en-ciel, la tempête ne dure pas toujours. En écho à cette marche vers la lumière, vous allez, Béatrice Vial-Collet, nous parler du diamant. Dites-nous pourquoi son mariage avec la lumière est multicolore.
Oui, ce mariage se part de toutes les couleurs, effectivement, parce que quand la lumière pénètre le diamant, elle est réfléchie à l'intérieur et se disperse à l'infini. Le diamant, comme la goutte d'eau, fonctionne comme un prisme. Il freine plus ou moins les rayons de lumière en fonction de leur longueur d'onde et toutes les couleurs apparaissent. Pour le cristal, le phénomène est le même, mais moins important parce que l'indice de réfraction du diamant est celui qui est le plus proche de celui de l'eau.
On parle de lumière à propos des pierres précieuses. Lumière encore dans l'abbatiale de Saint-Denis. Suger disait « lumineux est ce qui est lumineusement accouplé à la lumière ». Ou en latin, claret enim claris quod clare concopulatur. Ce qui est très joli, c'est cette idée de copulation avec la lumière.
Oui, c'est tout à fait ça, et il en est de même à Moissac, où les vitraux de Chagall sont aussi un magnifique mariage artistique de la lumière et de la couleur matière, c'est-à-dire du vitrail magnifié par la transparence.
Puisque vous parlez de Chagall, je ne peux m'empêcher d'évoquer Vassili Kandinsky, un des pères de l'art abstrait qui parlait du cœur avec un H des couleurs. Il était synesthète couleur musique et disait « Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement.
» Oui, en effet, Kandinsky perçoit une couleur comme une sonorité. Il est du reste célèbre pour ses œuvres mélodiques, aux courbes dissonantes. Il note que la peinture converge avec la musique. Pour lui, les sons engendrent la perception des couleurs. Il dit « Je voyais en esprit toutes mes couleurs. Elles se tenaient devant moi. » Sa pièce de théâtre, Der gelbe Klang, Le son jaune, associe musique, poésie, théâtre et jeu de lumière. Au Bauhaus, il se met alors à peindre des formes géométriques très colorées, comme cette composition 6. Elle figure la destruction du monde matériel par le déluge. Le centre principal de ce tableau est un noyau évanescent, rose et blanc, diffuse de grandes diagonales aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et revoici notre arc-en-ciel, ici par analogie avec les cordes d'un instrument de musique. Il symbolise l'harmonie après le chaos.
Vu sous cet angle, la synesthésie prend les allures d'un don qui permettrait d'associer de manière nouvelle les différentes formes d'expression. Mais je vous propose de reprendre notre conversation lors de notre prochaine émission de Vivre en couleur. Donc, Béatrice Vial-Collet, en conclusion, quel sera notre clap final ?
Oh, il sera prometteur comme il se doit. Nous voulons vivre en couleur. Alors, restons émerveillés devant toutes les couleurs de la nature, cultivons une hypersensorialité et poursuivons dans le rêve celui de l'arc-en-ciel, celui de Peter Pan qui nous recommande « Rêve ta vie en couleur ».
C'est le secret du bonheur.
Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles.
Et là-haut, dans le ciel, tu t'envoles.